Les matins débutent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le navire humanitaire Sea-Watch avec 42 migrants à son bord est posté ce matin devant l'île de Lampedusa, entré dans les eaux territoriales italiennes hier, provoquant la colère de Matteo Salvini. Précision de Mathilde Imberti dans un instant.
Au Liban, où survivent près d'un million de réfugiés syriens, les autorités annoncent détruire près de 5000 de leurs habitations.
Reportage à suivre dans le village d'Erzal, à la frontière avec la Syrie.
L'environnement à la une aussi ce matin avec cette décision de justice au Kenya contre la construction d'une centrale à charbon.
En Allemagne, l'autopartage continue de se développer massivement. À Berlin, nous irons. Alors qu'en France, plusieurs fonctionnaires du ministère de l'écologie manifestent aujourd'hui à la Défense pour dénoncer le manque de moyens, notamment face à la transition écologique. Dans les maisons de retraite, on redoute les ravages de la précédente canicule, celle de 2003 qui avait fait 15 000 morts. Et puis, le dérèglement climatique, il sera dans la question du jour, Guillaume.
Et oui, comment l'État pourrait-il faire plus, Sophie ? On posera la question à Sébastien Treyer. Il est directeur général de l'Institut de développement durable et des relations internationales.
En Italie, l'ONG allemande Sea-Watch a décidé de briser le blocus imposé par Matteo Salvini. Après deux semaines, il a pris la direction du port de Lampedusa hier pour accoster quoi qu'en disent les autorités. La tension est maximale, Mathilde Imberti.
Le navire de l'ONG Sea-Watch se trouve en face de l'île de Lampedusa avec l'intention d'accoster hier à la mi-journée. Il franchissait la ligne des eaux territoriales italiennes. La situation n'est plus tenable à bord, avait prévenu la capitaine avant son passage en force. Une provocation selon Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur. Pour lui, c'est l'ONG qui séquestre les migrants et l'Europe abandonne l'Italie face à ses hors-la-loi. Matteo Salvini furieux.
Personne ne débarquera en Italie, à moins que Bruxelles, Amsterdam ou Berlin les prennent en charge. Ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles qu'on traite l'Italie comme un pays de seconde zone. Ça suffit.
Basta. Il y a aussi des réactions tout autres en Italie, à Milan, Piazza del Duomo. Un sit-in spontané a débuté hier soir en soutien aux migrants et des députés de l'opposition italienne se sont déplacés à Lampedusa pour manifester contre la politique des ports fermés. L'église ensuite à plusieurs niveaux s'est prononcée en faveur de l'accueil de ces 42 personnes bloquées à bord de Sea-Watch 3 depuis 15 jours maintenant.
Le langage outrancier de Matteo Salvini et la presse italienne qui s'enflamme sur le sujet. Camille Magnard y reviendra à 7h35 dans sa revue de presse internationale sur France Culture. L'humanité est en train de quitter l'Union européenne, réagit Pierre Henry, le délégué général de France Terre d'Asile. Alors qu'en France, hier, 21 associations ont envoyé une lettre ouverte au ministère de l'Intérieur pour alerter sur un niveau de violence et de détresse inédit dans les centres de rétention, où la durée de séjour a doublé depuis janvier et l'entrée en vigueur de la loi Asile et Immigration. Des tentatives de suicide, un stress accru alors qu'ils peuvent maintenant rester enfermés jusqu'à 90 jours. Alors qu'en 2018, près de 25 000 hommes, femmes et enfants ont été détenus dans ces structures. Au Liban, ce sont plus d'un million de réfugiés syriens qui tentent de survivre, dont la moitié se trouve dans un état d'extrême pauvreté, selon les Nations Unies. Les autorités viennent d'ordonner la destruction de 5 000 abris construits illégalement par ces réfugiés. Plusieurs ONG ont lancé un cri d'alarme, car au moins 25 000 réfugiés, dont 15 000 enfants, sont concernés. À Erzal, village situé juste de l'autre côté de la frontière avec la Syrie, des familles ont préféré démolir elles-mêmes avant l'arrivée des bulldozers de l'armée, sous les yeux d'Aurélien Colli.
Terrorisé à l'idée d'être renvoyé en Syrie, Zahin a détruit lui-même l'abri de 20 mètres carrés qu'il avait construit en béton pour sa femme et ses 4 enfants. On respecte la décision du gouvernement libanais, on est des invités ici. Ils ont dit de détruire, donc on détruit, explique l'homme arrivé de Syrie en 2014, qui vit désormais sous une tente fournie par l'ONU. Celui qui a détruit nos maisons et nos vies, c'est Bachar al-Assad, pas l'État libanais, rappelle le père de famille. En exhibant son dos couvert de cicatrices, résultat de 4 mois de prison et de torture par les sbires du régime syrien. Assise à côté de lui, sa femme aussi refuse de se plaindre. Ici, c'est montagneux. Il y a 2 mètres de neige en hiver. Le vent, le froid, la pluie, c'est difficile sous une tente, surtout pour la santé des enfants, ose-t-elle quand même s'inquiéter. À quelques kilomètres, l'adjoint au maire d'Ersal rappelle-lui que les Syriens ont toujours été les bienvenus ici, mais que sa ville est dépassée. Jusqu'à 120 000 réfugiés pour 30 000 habitants, aucune infrastructure adaptée et des djihadistes qui ont même pris un temps le contrôle de la localité. Le gouvernement exige des tentes pour éviter le scénario des réfugiés palestiniens. Ils avaient construit en dur et leurs camps sont devenus incontrôlables, explique-t-il, soulagé que l'armée libanaise ait repris le contrôle. Notre projet, ce serait de regrouper les réfugiés sur un terrain. On pourrait leur construire un grand camp, mieux organisé, moins lourd à gérer pour nous et pour les habitants, ajoute-t-il, désabusé par la réponse sécuritaire des autorités libanaises qui se divisent sur le sort des réfugiés syriens que certains responsables politiques voudraient renvoyer chez eux.
Reportage signé Aurélien Colli, le correspondant de France Culture au Liban.
Au Kenya, c'est une grande victoire pour les défenseurs de l'environnement.
La justice a bloqué un projet controversé de construction d'une centrale à charbon sur l'archipel de Lamu, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'étude d'impact sur l'environnement a été invalidée. Le gouvernement a 30 jours pour faire appel. Mais en attendant, les opposants au projet ont savouré hier leur victoire, Charlotte Simonard.
La voix des sans-voix a été entendue par la justice.
Danse et chant à la sortie du tribunal. Comme cet activiste, ils étaient une poignée à avoir fait le déplacement depuis Lamu, à 500 km de la capitale. Oshiel Dudley, leur avocat.
La cour a estimé illégale la licence obtenue par le gouvernement pour construire cette centrale. Des endroits alternatifs n'ont pas été pris en compte et il n'y a pas eu de concertation des populations locales. Ce projet ne peut donc aboutir sans cette licence d'impact environnemental. C'est une victoire massive pour l'environnement et pour le peuple de Lamu.
Pour le gouvernement kényan, cette centrale à charbon financée par la Chine est nécessaire pour le développement du pays qui vante pourtant son leadership en matière d'énergie renouvelable, notamment géothermique. Pour l'activiste Mohamed Atman de l'organisation Save Lamu, la justice vient de sauver les communautés de l'archipel.
C'est un avertissement contre cette centrale à charbon qui tue. Elle nous ferait perdre l'écosystème et les micro-organismes marins, notre industrie de la pêche et même nos vies. 2000 personnes mourront chaque année à cause de l'explosion des maladies. À Lamu, nous ne sommes que 200 000 habitants, une minorité dans le pays. Et donc, si nous nous taisons, nous perdons.
Les habitants de Lamu veulent aussi sauver le tourisme, principal pourvoyeur de richesses et d'emplois sur cet archipel paradisiaque.
Charlotte Simonard au Kenya pour France Culture. En Europe, l'Allemagne est-elle pointée du doigt pour l'utilisation persistante de l'exploitation massive de ses centrales à charbon? Sur le plan de la circulation automobile, en revanche, le pays avance et Berlin est même devenue l'une des villes européennes où l'autopartage fonctionne le mieux. Des voitures électriques en libre-service pour se déplacer dans la ville. Près d'un habitant sur deux n'a pas de voiture. Les grands constructeurs automobiles du pays s'en servent de vitrine pour tenter aussi de faire oublier notamment le scandale des moteurs diesel trafiqués. Volkswagen met à disposition à partir d'aujourd'hui 1500 voitures électriques et prévoit de monter en puissance à l'étranger peut-être, mais d'abord dans le reste du pays qui compte plus de 2,5 millions de clients et déjà plus de 23 000 voitures à partager. Reportage à Berlin de Ludovic Piétenu.
Et aussi, il y a du cabrio.
C'est parfait pour l'été, il y a même des cabriolets en autopartage. Macha, cette jeune titulaire du permis de conduire, utilise au moins 3 des services disponibles en ville. Elle peut choisir parmi une vingtaine de modèles différents.
L'autopartage a complètement changé ma vie. Je dispose d'une voiture à tout moment, je n'ai pas de frais supplémentaires. Je pense même que c'est beaucoup moins cher que d'avoir sa propre voiture.
Autour de 30 centimes d'euros la minute, Volkswagen casse les prix. 19 centimes la minute et uniquement des voitures électriques. Une vitrine pour une marque qui doit se refaire une image plus propre après le scandale du Dieselgate. Mais attention, elle ne verrait pas assez grand selon cet économiste spécialiste du secteur automobile, Ferdinand Dudenhofer.
Volkswagen a choisi une stratégie en solo. C'est un mauvais choix. Dans le monde de demain, celui de la mobilité individuelle, c'est une histoire d'échelle. Vous devez être mondial. C'est comme pour Google, quand vous pensez à un moteur de recherche sur Internet, il n'y a rien d'autre qui vous vient à l'esprit.
Deux autres grands constructeurs allemands ont cette ambition. Ils sont concurrents, mais pour y parvenir, Daimler, Mercedes-Benz et BMW ont choisi de s'associer. Ils ont mis tous les deux 1 milliard d'euros sur la table pour créer ShareNow, une seule marque qui offre avec la même application, en plus de ses voitures en libre-service, du taxi, du covoiturage, un réseau de recharge électrique et des parkings. Pour WeShare de Volkswagen, c'est à peu près la même offre, mais en plus petit et pour l'heure que dans la capitale allemande.
L'Iran va dépasser aujourd'hui le plafond d'uranium faiblement enrichi, fixé dans l'accord sur le nucléaire de 2015. Téhéran avait lancé un ultimatum aux pays européens signataires du texte pour qu'ils compensent le rétablissement des sanctions économiques américaines. On y reviendra à 7h30 sur France Culture.
En attendant, il est 7h10 sur France Culture. C'est la suite des matins avec le journal de Sophie Delpont. Le pic de canicule devrait être atteint aujourd'hui en France.
Ce matin, 78 départements sont en vigilance orange canicule avec des températures qui vont grimper de 38 à 41 degrés. Cela fait penser à la canicule de 2003 qui avait fait 15 000 morts, principalement des personnes âgées. Les moyens, depuis, ont-ils évolué? Pascal Chanvert est le président de l'ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Il s'inquiète du manque de personnel qui persiste pour s'occuper des personnes âgées.
L'État lui-même avait annoncé qu'en 2012, il faudrait dans chaque maison de retraite 8 professionnels pour 10 personnes âgées et l'équivalent dans les services à domicile. Aujourd'hui, on est à peine à 6 pour 10. Donc vous voyez, on est en retard sur les prévisions de l'État lui-même il y a 7 ans. Donc, il s'agit de créer des centaines de milliers d'emplois pour mieux accompagner les personnes âgées d'aujourd'hui et les personnes âgées de demain. Et c'est ce qui fait, au fond, que quand on est aidé à son domicile, on est souvent isolé, ou que quand on est aidé en établissement, on ne répond pas suffisamment aux urgences ou aux besoins des personnes âgées. C'est ça qui fait ce retard français tout au long de l'année. Et évidemment, quand on est en période de tension, comme aujourd'hui en période de canicule, eh bien ça peut avoir des conséquences extrêmement graves, y compris sur la santé et sur la vie des personnes âgées.
Pascal Chanvert était l'invité du journal de 22h de France Culture, présenté par Claire Flochel. L'homéopathie ne doit plus être remboursée par la Sécu, car son efficacité n'est pas prouvée. C'est l'avis de la Haute Autorité de Santé, selon les fuites dans le journal Libération ce matin. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déjà annoncé qu'elle suivrait l'avis de cet organisme qui sera rendu officiellement demain. La météo marquée aujourd'hui donc par ce pic de canicule, soleil et chaleur écrasante annoncées partout sauf sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Les températures moyennes ce matin seront comprises entre 18 et 24 degrés, 34 degrés au fur et à mesure de la matinée. 18 degrés à Saint-Malo pour la minimale, 27 degrés à Lille, 29 à Paris, 34 degrés à Marseille. Cet après-midi, un pic attendu à 40 degrés, notamment dans le Vaucluse.